Théologie naturelle, Père Philippe, 11 novembre 1982, Rimont.
Cette question regarde la philosophie du vivant. Oui, alors ça c'est un petit mot, vous avez raison de poser ces questions-là. Pourquoi appelle-t-on la théologie naturelle théodicée ? Et qu'entendons par ce mot ? C'est devenu théodicée à partir de Leibniz. Il faut toujours, quand il s'agit d'un mot et d'une étiquette, voir d'où ça vient. Vous savez, ça c'est un petit procédé très simple. Parce que c'est vrai que, je vous ai dit, la métaphysique a pris des noms différents, hein, a pris des habits différents. Ça a commencé par la sophie, la sagesse, puis l'ami de la sagesse, philosophie première, puis métaphysique, puis ontologie, puis ontologie fondamentale. Oui, c'est très intéressant de voir ça. C'est une chose très simple. Il faut soi-même, hein, faites-vous vous-même ce petit chantier, si vous voulez, des mots, n'est-ce pas, dans votre travail. Vous commencez maintenant à avoir des secteurs philosophiques différents. Alors ayez des chantiers différents. Et comme on vit ici dans un chantier, c'est très facile à comprendre, n'est-ce pas ? Vous avez des chantiers différents. Vous avez le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée. Alors, je ne sais pas ce que vous mettrez pour le rez-de-chaussée. Vous avez le premier étage, sous-sol, et puis ainsi de suite. Hein. Alors, ayez des chantiers philosophiques. Moi, je crois que c'est important d'avoir des chantiers philosophiques. Les notes que vous prenez au cours, et puis votre travail personnel. Alors, vous avez un chantier philosophie de l'art, vous avez un chantier philosophie morale. Ça, c'est un troisième chantier qui reste ouvert, qui serait la philosophie politique. Alors là, peut-être que ça restera complètement vierge pendant un certain temps, mais ça fait rien. Ayez le chantier, parce que bon. Puis alors, philosophie du vivant, philosophie de la nature, philosophie première. Je crois que c'est bon, petit à petit, d'arriver à comprendre que la philosophie implique cette très grande diversité. C'est pas univoque, c'est pas unidimensionnel. Vous voyez, si nous étions dans une dialectique, nous mettrions unidimensionnel. C'est pas unidimensionnel. Il faudra se demander pourquoi, du reste, progressivement, pour comprendre ce que c'est qu'une connaissance analogique. Une connaissance analogique, c'est toujours dans la diversité de l'unité. Mais il y a la diversité. Qu'est-ce que nous recherchons ? C'est connaître l'homme. Et nous essayons de découvrir les sept dimensions de l'homme. Alors, petit à petit, vous pourriez faire aussi le chantier de cette manière-là, les sept dimensions de l'homme. Alors vous auriez 1, 2, 3, 4, 5, 6, au point de vue proprement philosophique, et puis au point de vue théologique, les sept dons du Saint-Esprit. Et dans la perspective de ça, vous rejoindriez les choses. Ça, vous-même, organisez vos chantiers. Vous avez l'avantage là d'être l'organisateur de votre chantier, donc architecte, architectonique. Chacun d'entre vous, soyez-le pour votre propre esprit, parce que c'est bon d'avoir quand même suffisamment de compréhension de ces choses-là. Il faut l'avoir assez vite, au point de vue philosophique, au point de vue théologique. Puisque de fait, il y a toujours un peu les deux. Et c'est nécessaire si on veut utiliser le temps qu'on a, même s'il y a peu de temps, pour les études, pour les réflexions, de progresser de cette manière-là. Parce qu'autrement, vous risquez au bout d'un certain temps de faire un cocktail de tous les cours, et alors ne plus rien y comprendre. Hein. C'est normal, hein. Il y a la nuit de l'esprit aussi au niveau philosophique. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a les brouillards métaphysiques qui sont d'une opacité très très grande, et il ne faut pas non plus s'inquiéter. Mais il faut essayer autant que possible, dès le point de départ, de profiter tout de suite. Alors, on peut le faire ici, donc vous avez une organisation possible. Puis alors vous avez la logique, qui est le petit instrument. Ça. C'est un instrument particulier qu'il faut essayer de comprendre, essayer de se saisir. Puis alors, en plus, l'histoire de la philo. Alors, l'histoire de la philosophie, on peut l'intégrer dans les différents problèmes de la philosophie, comme on peut aussi avoir une histoire de la philosophie distincte. Parce que nous allons voir ça un tout petit peu avec la théologie naturelle. Donc, au point de vue théologie naturelle, je vous ai dit, le mot théologie, il est né dans la philosophie grecque. Platon parle de théologie, Aristote parle de théologie. On comprend que la théologie est née, que ça veut dire théologos, hein, c'est facile à comprendre, le logos sur Dieu. Donc on dirait, dans un air avec une nuance sorbonnarde aujourd'hui, le discours sur Dieu. Les Grecs disaient le logos avait l'avantage, ça ne précisait pas le discours, ça précisait aussi la pensée. Parce qu'on pourrait très bien dire théologie, la pensée sur Dieu. Et la pensée sur Dieu, c'est la contemplation. Tandis que le discours sur Dieu n'est pas contemplatif. Mais c'est là où on voit toute la différence entre les Grecs et la Sorbonne. Vous voyez, il y a un petit changement de décalage, n'est-ce pas ? Alors, le discours sur Dieu, c'est la théologie. Théodicée, Leibniz. Alors, comment s'est réintroduit la théodicée de cette manière-là ? C'est que le discours sur Dieu, vous comprenez, va impliquer le fait de Dieu qui gouverne le monde. Et c'est ça qui a intrigué avant tout les apologètes. Et certains théologiens, comment Dieu gouverne-t-il le monde ? Il y a tellement de mal dans le monde. Il y a tellement de lutte dans le monde. Est-ce que vraiment Dieu gouverne le monde ? Ou est-ce qu'il y a Dieu d'un côté, et puis il y a l'ennemi de l'autre côté ? Alors à certains moments, l'ennemi gagne du terrain. Un temps de guerre, quoi, tout simplement. Alors vous avez le malin d'un côté, et puis Dieu de l'autre. Alors comment expliquer les permissions de Dieu ? Comment expliquer le problème du mal ? D'où le mot théodicée. Vous voyez, théodicée, c'est justement la dikaie de Dieu, la justice de Dieu. Comment Dieu peut-il gouverner le monde ? Le mot théodicée est du côté du gouvernement de Dieu et du côté de la justice de Dieu. Alors ça, c'est Leibniz. Leibniz, vous savez bien, vous situerez progressivement ce que c'est que Leibniz. Je ne vous demande pas de devenir un spécialiste de Leibniz, mais il faudra situer ce que c'est que Leibniz. Leibniz, ordinairement, on dit que c'est le dernier des scolastiques. Parce que Leibniz est encore un scolastique. Et c'est le dernier des scolastiques. Il a écrit énormément. C'est un esprit extrêmement universel, très universel, quelqu'un qui a vraiment fait une espèce de synthèse, mais alors avec une nuance apologétique. C'est très nettement. Quand je dis nuance apologétique, vous voyez, c'est un peu péjoratif. C'est-à-dire, au fond, celui qui veut à tout prix concilier le problème de Teilhard quand il était dans les tranchées et qu'il écrivait à sa sœur et qui fait comprendre toute son œuvre, parce que c'est là où il a médité. Alors il a dit, il faut à tout prix réconcilier la foi et la science. Réconcilier la foi et la science, et donc faire une philosophie qui soit à la fois scientifique, philosophique et théologique. Alors c'est très bien, mais le danger c'est le cocktail. Vous voyez, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus. On est en théologie, on est en science, on est en philosophie. Alors je crois qu'il faut faire grande attention à cela. Eh bien Leibniz, je ne dis pas que c'est comme Teilhard, c'est intéressant, de toute façon on n'a pas fait le parallélisme entre Teilhard et Leibniz, ce serait peut-être très intéressant et très éclairant, parce que des deux côtés on voit un souci apologétique, dominant, c'est-à-dire essayer de réconcilier, vous voyez, réconcilier la marche du monde avec Dieu. Dieu est infiniment bon, comment se fait-il qu'il y a le mal ? C'est bien, c'est vrai, c'est un des obstacles que nous verrons. Ça, c'est constamment. Alors, vous voyez, théodicée, ça fait une partie de la théologie naturelle. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le mot théodicée. J'aime mieux dire théologie naturelle, parce que théodicée a trop la saveur de Leibniz. Donc, nous prenons dorénavant théologie naturelle, ou théologie tout court. Et quand il s'agit de la théologie de saint Thomas, j'aime mieux dire théologie doctrina sacra. Mais en mettant naturel, ça ne va pas très bien, n'est-ce pas, naturel. On devrait dire théologie philosophique, ce serait mieux. Théologie philosophique, c'est-à-dire l'effort que nous faisons par rapport à notre connaissance de Dieu au point de vue naturel et à partir de l'expérience. Alors, je vous avais situé la fois dernière la place de cette théologie philosophique. Je vous avais rappelé, il faut toujours se rappeler cela, vous avez la petite synthèse dans Lettre à un ami, vous pouvez toujours lire Lettre à un ami, hein. Ça vous aide à avoir une petite synthèse, et c'est fait pour ça. Alors, il ne faut pas rester uniquement à cela, mais c'est bon pour situer les différents problèmes. Vous avez donc les cinq points de départ, les cinq grandes expériences, hein, fait que vous méditez longuement, qui vous donne les points de départ. Et puis nous avons le sixième point de départ, la sur-expérience, la méta-expérience, ce que je vous avais dit, le jugement d'existence. Donc là, nous avons des points de départ qui sont l'intelligence par rapport à la réalité existante, c'est-à-dire l'homme. Je philosophe pour connaître l'homme. La métaphysique, qui a son point de départ dans le jugement d'existence, c'est la différence avec les idéologies. Puisqu'on m'a demandé de préciser, il faudra revenir souvent là-dessus, hein, parce que je parle souvent d'idéologie de philosophie. Hein. Bon, il faut que vous compreniez petit à petit ce que c'est que l'idéologie. Les idéologies athées, on les verra, hein, les idéologies athées, parce que le cours ici, c'est pour nous faire comprendre un tout petit peu ce que représentent ces diverses idéologies athées. La philosophie réaliste commence toujours par l'expérience, un jugement d'existence, tandis que l'idéologie commence par une réflexion sur les idées, qui sont comme des idées innées. Pour Descartes, c'est donc des idées innées. C'est pas la même chose, l'idée et le jugement. Vous voyez, il faut arriver petit à petit à comprendre la différence entre l'idée et le jugement. Les idées, c'est proprement dans l'appréhension. Nous avons des idées. Alors, la métaphysique commence par un jugement d'existence et non pas par une idée. Tandis que les idéologies commencent toujours par une idée, qui est une idée a priori, qui est une idée innée. La métaphysique aboutit à se poser la question, l'homme ou la personne humaine est-elle la réalité suprême? Est-elle la réalité ultime, première? La philosophie première, donc, aboutit au problème de la personne humaine. Et au-delà de la personne humaine, on se pose la question, est-ce qu'il existe une autre réalité? Est-ce qu'il existe quelque chose d'antérieur à l'homme? Alors je répondrai le monde, notre univers, c'est sûr. Existait-il une réalité antérieure à l'univers et à l'homme? Oui, je peux très bien poser deux fois la même question, hein, successivement en précisant. Mais au fond, il y a cette interrogation qui est nécessaire. S'il n'y a pas cette interrogation, vous comprenez bien, s'il n'y a pas cette interrogation, je n'entre pas en théologie naturelle. Je reste au sol. Je peux très bien, a priori, dire toutes les traditions religieuses, c'est de l'infantilité, c'est une vieille nostalgie de l'homme à l'égard du bonheur. C'est parce que l'homme est malheureux qu'il a inventé Dieu. Les traditions religieuses me parlent de Dieu, me parlent de Allah, me parlent du Créateur. Mais aussi, c'est intéressant si vous pouvez réunir tous les noms de Dieu. C'est une petite recherche intéressante et qui est intéressante de voir que toutes les traditions religieuses ont des noms de Dieu. Le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est quand même un nom que nous voyons dans l'Écriture. Relevez simplement, selon la tradition judéo-chrétienne, relevez tous les noms de Dieu qui sont dans l'Écriture. On les verra, du reste, parce que c'est intéressant à essayer de comprendre tous les noms de Dieu. Les noms de Dieu ne sont pas philosophiques. Dieu n'a pas de nom pour le philosophe. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Les noms relèvent des traditions religieuses. Les noms de Dieu relèvent des traditions religieuses. Et les noms de Dieu sont toujours liés à une relation de Dieu avec l'homme. Donc c'est toujours relié au Créateur, au Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, relié à certains aspects de la Moïra, de la destinée de l'homme, et ainsi de suite. Donc les traditions religieuses me parlent de Dieu. Je dois me poser la question, est-ce que ces traditions religieuses ont une valeur réelle? Ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ces traditions religieuses traduisent quelque chose de vrai? Autrement dit, la signification du mot Dieu. Le mot Dieu a une certaine signification, le mot créateur a une certaine signification. La signification du mot Dieu est-elle intelligible pour moi? A-t-elle une certaine intelligibilité pour moi? Ou est-ce qu'au fond, je dis non, ce n'est que du sentiment? Le mot Dieu, oui, très bien, tradition religieuse, c'est une question affective, ou bien alors c'est une question de foi, mais ça n'a aucune intelligibilité pour moi. Puis je peux poser la question, la très sainte Trinité a-t-elle une intelligibilité pour moi? Mais pour que vous compreniez mieux, parce que c'est des niveaux d'intelligibilité qu'il faut saisir, c'est des niveaux de compréhension de mon intelligence par rapport à ce que représentent ces traditions religieuses. Alors, je peux me poser cette question de cette manière-là. Je me pose la question aussi à l'intérieur même de la philosophie. Vous voyez, c'est pour ça que la question se pose différemment. À l'intérieur même de la philosophie, existe-t-il une réalité antérieure à l'homme, antérieure à l'univers? Ou est-ce que la réalité suprême que je connais, c'est l'univers et c'est l'homme? Vous voyez, il faut se poser cette question-là. Alors à ce moment-là, nous comprenons que pour répondre à cette question, c'est pas commode, hein, pour répondre à cette question, je suis obligé de revenir à toute la philosophie. C'est en ce sens-là que la théologie naturelle, la théologie philosophique a quelque chose de synthétique et d'ultime. Je suis obligé de revenir à toute la philosophie pour m'aider à répondre. Et progressivement, je pourrai préciser des voies d'accès à l'affirmation « Dieu existe ». Vous voyez donc que la théologie philosophique a un statut épistémologique. Alors quand je dis statut épistémologique, comprenez bien ce que ça veut dire. Hein? Épistémologique, c'est vient du grec, épisténé, science, et le logos. C'est-à-dire, au fond, le statut d'intelligibilité de la théologie naturelle, de la théologie philosophique. Vous voyez qu'elle a un statut tout à fait différent des autres parties de la philosophie. Les autres parties de la philosophie reposent sur l'expérience. Regarde l'homme, et donc repose sur l'expérience. Tandis qu'au contraire ici, ça ne repose pas sur l'expérience. Je n'ai pas d'expérience immédiate de Dieu. Si j'avais une expérience immédiate de Dieu, je dirais, aller à tel endroit, c'est comme me disait une sainte religieuse irlandaise, l'Irlande est tellement pieuse qu'elle est à la frontière de la terre et de Dieu, du ciel. Alors, il suffit de se mettre là, on rencontre Dieu. Alors, je pourrais très bien dire, au fond, il y a certains lieux privilégiés où on fait des rencontres avec Dieu. Le lieu du temps, la rencontre, l'attente de rencontre avec Dieu. Alors, allez là, et puis vous rencontrerez Dieu. Donc, vous aurez une expérience. Je peux pas dire ça. Je peux même pas envoyer à Delphes, à l'oracle de Delphes, en disant à l'oracle de Delphes, vous rencontrerez Dieu. Il n'y a pas de lieu au point de vue humain, au point de vue philosophique. Il y a des lieux de rencontre de Dieu avec l'homme au plan de la révélation. Et ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça que ce sont des lieux de pèlerinage. Et les lieux de pèlerinage, c'est les lieux de rencontre de Dieu et de l'homme. C'est des lieux de rencontre de la Vierge Marie et de l'homme. De l'au-delà et de l'homme. C'est ça les lieux de pèlerinage. Et on va dans ces lieux pour faire une petite expérience religieuse. Ou une grande expérience religieuse. Tandis qu'au plan philosophique, je ne peux pas désigner des lieux de rencontre de Dieu et de l'homme. Je n'ai pas d'expérience immédiate de l'homme avec Dieu. Au plan philosophique, le philosophe sait qu'il y a des mystiques et des mystiques qui disent qu'ils ont une rencontre directe avec Dieu. Mais ils le disent en fonction d'une certaine grâce de Dieu ou en fonction d'une certaine attitude religieuse. Alors, est-ce qu'il y a une expérience religieuse qui serait la septième expérience pouvons-nous dire une septième expérience religieuse? Ça, c'est le gros, gros problème, et très important pour le statut épistémologique de la théologie philosophique. Y a-t-il une expérience directe? Il faut se poser la question, hein, c'est la grosse question de la mystique naturelle que Olivier Lacombe se pose tout le temps et qu'on se pose tout le temps avec l'Inde. Prenez, est-ce que de fait, il y a une rencontre naturelle de l'homme avec Dieu? Est-ce que je peux dire qu'en me mettant dans un certain climat particulier, une serre bien chauffée, religieusement, n'est-ce pas, j'arriverai au bout d'un certain temps, avec une certaine assaise, à arriver à une expérience avec Dieu? La question se pose. Est-ce qu'au fond, une assaise va me alléger mon corps, permettre à mon corps de ne plus être un obstacle, et que mon âme à ce moment-là pourra avoir une certaine liberté intérieure beaucoup plus grande et rejoindre Dieu? Y a-t-il une expérience religieuse? Y a-t-il une expérience religieuse? Il y a une expérience religieuse, mais y a-t-il une expérience religieuse qui me met en contact direct avec Dieu? Vous comprenez que s'il y avait une expérience religieuse qui me met en contact direct avec Dieu, je n'aurais plus qu'à analyser cette expérience religieuse pour connaître ce que c'est que Dieu. Il n'y aurait plus de problème de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. J'aurais tout simplement l'expérience religieuse qui dira « Dieu existe ». J'ai l'expérience de la table, je n'ai pas besoin de prouver que la matière existe. Ça, je le constate, vous ne le savez pas, mais il y a un accident de voiture, vous verrez que la matière existe. Hein, parce qu'il y a des obstacles. Et l'obstacle, on revient, il y a quelque chose qui est en extérieur à vous, et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui résiste. Vous n'allez pas non plus poser l'existence de votre voisin. Non, j'ai coopéré avec lui, il m'ennuie beaucoup, donc je sais qu'il existe. C'est une manière de montrer son existence. Ou bien au contraire, il est là, merveilleuse, une vigilance étonnante auprès de moi, je vois qu'il existe. Je n'ai pas besoin de poser le problème de l'existence d'un autre homme, de la matière et de l'univers. Je n'ai pas besoin. Tandis que quand il s'agit de l'existence d'un être suprême qu'on appelle Dieu, d'un être premier qu'on appelle Dieu, je n'ai pas d'expérience immédiate de son existence. L'expérience religieuse n'est pas une expérience immédiate de l'existence de Dieu. Ça, faudra le voir progressivement, mais c'est très important. L'expérience religieuse se base sur une certaine affectivité, une certaine émotion, un certain sentiment d'une présence de quelque chose qui me dépasse. Mais c'est négatif par rapport à la présence de cet absolu. J'ai le sentiment de ça. C'est vrai, on peut avoir un sentiment du sacré. C'est bien, c'est la fameuse chose du sentiment du sacré. On peut dire qu'il y a un sentiment du sacré. Le sentiment du sacré n'est pas l'expérience directe et immédiate de l'existence de Dieu. C'est un sentiment du sacré. Le tremendum, hein, comme on dira, Otto, le livre de Otto qui montre ça très très bien, et qui montre le tremendum. J'ai comme un sentiment de peur, de frayeur. Vous voyez, Moïse en face du buisson ardent. Ce lieu est saint, cette terre est sainte, on enlève ses sandales. Et puis on essaie de s'approcher. On essaie de s'approcher pour avoir un contact et dire, alors Dieu parle de là. Alors là, ce n'est plus l'expérience religieuse, c'est l'expérience de la foi. Dans la foi, j'ai une expérience directe de celui qui me parle. Dans la foi, j'ai une expérience directe de celui qui me parle. Mais l'expérience de la foi n'est pas l'expérience religieuse. C'est d'un autre caractère, et on le sait. On sait très bien que si Dieu vient vers moi et qu'il me parle, c'est autre chose que l'expérience religieuse. C'est un contact direct avec une personne qui vient vers moi et qui me parle, qui me transcende, qui me dépasse infiniment, qui pourrait très bien ne pas me parler, et qui me parle gratuitement. Vous voyez, l'exemple de Moïse est très très bel, de ce point de vue-là, parce que ça donne un exemple merveilleux de ce lieu est saint. Donc, quand on est en face d'une terre sainte, on fait attention. Attention, et on sait que c'est... Mais ce n'est pas l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de la terre sainte. C'est l'expérience d'un lieu consacré. C'est l'expérience d'un lieu qui est marqué par Dieu, de façon multiple, de façon diverse, si vous voulez. Mais c'est un lieu qui est sacré. Ce n'est pas l'expérience de Dieu. C'est l'expérience d'un certain sentiment intérieur de crainte. Tremendum. J'ai peur du sacré. Ce n'est pas l'expérience directe de Dieu. Et c'est pour ça que la théologie philosophique a un statut unique. Elle commence par une interrogation. Oui, c'est curieux. Elle commence par une interrogation. Existe-t-il une réalité première au-delà de l'homme et de l'univers? Existe-t-il une réalité telle qu'elle soit conforme à ce que les traditions religieuses appellent Dieu, le Créateur? C'est l'interrogation. Et c'est pour ça que c'est important. Voilà le point de départ. Vous voyez que là, on est en face d'un point de départ unique qui montre tout de suite que la théologie philosophique n'est pas comme les autres parties de la philosophie. Et ça, c'est important. Parce que si vous cherchez l'expérience, non? C'est pour ça que je n'ai pas mis l'expérience religieuse au point de départ. Beaucoup le feraient, je sais très bien, beaucoup le feraient, mais ça ne signifie, c'est pas vrai. Si vous faites la critique de l'expérience religieuse, vous voyez qu'il n'y a pas un contact direct avec l'existence de Dieu. Il y a une présence, un sentiment de présence, affectivement. Le sentiment de présence n'est pas un jugement d'existence. Et nous retrouvons le jugement d'existence. C'est autre chose. Le sentiment de la présence de Dieu. Le sentiment que je suis une partie enveloppée dans l'océan. La petite goutte dans l'océan. La petite éponge plongée dans l'océan, pour prendre tous les exemples des mystiques par rapport à la présence d'immensité. Parce qu'au fond, je pourrais dire, la présence d'immensité, c'est la présence du Créateur. Et donc cette présence d'immensité doit me permettre de comprendre que je suis enveloppé par la toute-puissance. Dieu est comme un océan d'être. Il est l'océan de l'être, et moi je suis dedans, un tout petit être. Et dans cet océan de l'être, j'ai quand même le sentiment que je suis dépendant. Et donc, j'ai l'expérience de ce tout. Vous voyez, c'est par là que va naître ce qu'on appelle, si vous voulez, une philosophie du panthéisme. Pour le panthéisme, il y a une expérience du tout. Et la partie fait l'expérience du tout. Pour le panthéisme. Mais le panthéisme n'est pas juste, nous le verrons. C'est imaginaire. Quand on est dans l'obscurité, l'imagination marche très bien. Vous savez bien. Mettez-vous dans l'obscurité, puis entendez des bruits. Vous allez faire des tas d'images extraordinaires. Et vous direz, ça y est, il avance, vous voyez bien, je disais bien qu'il était là, parce qu'on est dans l'obscurité. L'obscurité augmente l'imaginaire. C'est dans ce sens-là que la foi qui nous donne l'obscurité peut augmenter l'imaginaire et nous faire croire à certains fantasmes extraordinaires comme pour une réalité. Le panthéisme est à base d'imagination, nous le verrons. Et ce n'est pas vrai. Chez le panthéiste, il y a une expérience de la partie à l'égard du tout. Mais Dieu n'est pas le tout. Et je ne suis pas en relation de partie à l'égard du tout, quand il s'agit de Dieu. C'est mon être limité qui ne rejoint pas directement l'existence de l'être premier. La présence d'immensité repose sur l'acte créateur de Dieu. Et l'acte créateur de Dieu est un acte purement gratuit. C'est pas nécessaire. Si Dieu avait créé par nécessité, j'aurais l'expérience du Créateur. C'est ce qui existe dans tout le panthéisme. Dieu existe, Dieu crée par nécessité. Alors à ce moment-là, il y a une expérience du Créateur. Tandis que Dieu ne créant pas par nécessité, et Dieu créant librement comme un artiste. Alors prenez l'exemple, vous comprendrez tout de suite. Vous savez bien, quand vous avez regardé une exposition de tableau, sans connaître l'artiste, est-ce que vous pouvez dire que vous connaissez l'artiste en regardant ces tableaux? Vous savez que souvent, ça fait des désillusions terribles, n'est-ce pas? Je me connais. J'avais lu Claudel avant de connaître Claudel. Et alors, quand on connaît Claudel après, on se dit, bigre, alors, comment se fait-il que c'est sorti de lui? C'est mystérieux, ça, c'est très mystérieux. Et c'est comme ça. Alors, Claudel m'a fait comprendre en me disant, j'ouvre le robinet une heure par jour. Ah, très bien, au chaud. Et puis, je referme après. Tout ce qu'il m'a donné comme explication sur l'inspiration. J'ouvre le robinet une demi-heure par jour. Très bien, il se mettait à écrire une robinet une fois par jour, une heure par jour. Après, il fermait parce que l'eau devenait de plus en plus tiède au bout d'une heure. Alors, il valait mieux que ça se réchauffe pendant toute la journée. Non, alors, ça revenait. Alors, il ouvrait le robinet. C'est très vrai que quand vous regardez une œuvre, une exposition, vous voyez les tableaux. Vous pouvez, à partir de là, vous imaginer ce qu'est l'artiste. Oui, on peut très bien. Ça m'a un peu d'imagination. Mais si vous voyez l'artiste, vous voyez aucune commune mesure. Parce que l'œuvre d'art n'est pas jaillie nécessairement de l'intelligence de l'artiste. Nécessairement de l'intelligence de l'artiste. C'est autre chose. Il a créé librement. Dans la nécessité de son inspiration, mais son inspiration, ce n'est pas son être. Si Dieu était un créateur qui avait créé par nécessité, vous seriez une partie d'un tout et vous auriez l'expérience de Dieu. Ce qui existe dans le panthéisme, c'est important de comprendre ça, parce que c'est très important de saisir ce que c'est que le panthéisme. Nous y reviendrons. C'est une des grandes formes de conception de Dieu. Tandis que si, de fait, selon les traditions religieuses, vous dites que Dieu est un créateur qui est absolument libre. Donc, il ne crée pas par nécessité. La créature, l'œuvre de Dieu, n'est pas adéquate à la pensée de la sagesse de Dieu. Il y a un hiatus infini. Et donc, je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu à partir du sentiment religieux. À partir du sentiment religieux, qui est tout simplement le sentiment de la petite partie. Je suis une partie, je suis limité dans mon être. Je suis dépendant dans mon être. Vous voyez, l'expérience d'une dépendance ne me fait pas découvrir l'existence de Dieu. Parce que cette dépendance, elle peut venir de quoi? Ce n'est pas la dépendance métaphysique que je saisis. Je n'ai pas l'expérience de la dépendance métaphysique. J'ai l'expérience de mes dépendances au niveau intentionnalité. C'est au niveau de l'intentionnalité que j'ai le sens de mes dépendances. Dépendance dans l'ordre de la connaissance, dépendance dans l'ordre de l'affectivité, dépendance. C'est au niveau affectif, ce n'est pas au niveau de l'être. Si j'avais l'expérience de la limite métaphysique, je pourrais dire que là, il y a un contact avec Dieu. Mais je n'ai pas l'expérience de cette limite métaphysique. J'ai l'expérience de limite intentionnelle, affective, connaissance, de ma personnalité, de mes relations. Oui, ça, j'ai l'expérience de ça. Mais je n'ai pas l'expérience de la limite métaphysique dans l'ordre de l'être. Donc, je ne touche pas Dieu par mon expérience religieuse. Je dois donc essayer de voir comment je peux rejoindre l'existence de Dieu. L'expérience religieuse m'aide beaucoup, hein. Ne disons pas du tout que c'est indifférent. C'est très très important. Un homme religieux découvrira beaucoup plus facilement l'existence de Dieu que quelqu'un qui n'a aucune expérience religieuse. Alors ne disons pas du tout que c'est indifférent. Il y a un certain climat qui permet à mon intelligence de pouvoir découvrir l'existence de Dieu. Alors ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Et Rostand le disait à la fin de sa vie. Si je n'arrive pas à découvrir l'existence de Dieu, sans doute, c'est parce que je suis né dans un milieu positiviste. Et c'est à cause de ça que je n'arrive pas à découvrir l'existence de Dieu. Je le voudrais beaucoup qu'il existe. Je le voudrais beaucoup, mais je n'arrive pas parce que je suis né dans un climat positiviste. Alors les premiers plis de mon intelligence m'ont orienté à dire Dieu n'existe pas. Tandis que si j'ai une expérience religieuse, j'ai une disposition intérieure, une disposition affective qui me conduit à dire oui, oui, il doit exister. Alors comment je vais pouvoir montrer qu'il existe? Oui. Si on a un très grand désir, on découvre beaucoup plus facilement les vestiges d'un sentier. Si on n'a pas un très grand, n'avez que faire appel à vos expériences de scout. Les vestiges des sentiers. Alors, si vous n'avez pas un très grand désir de la vérité, un très grand, vous n'arrivez pas à découvrir les vestiges, les petits passages, les petits cailloux, vous comprenez, les petits cailloux divins qui me conduisent au Créateur. Il y en a des petits cailloux, mais ce sont des petits cailloux. Et il faut voir le lien. Si je ne vois pas le lien, j'arrive rien du tout. Alors il faut arriver à découvrir ça. Et c'est pour ça que l'expérience religieuse me donnant une très grande soif de m'approcher de Dieu, ah, ça m'aide beaucoup. Si je n'ai aucune expérience religieuse, aucun sens de ces limites affectives et ces limites du côté de l'intelligence, j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine. Si je suis dans un milieu positiviste, j'ai beaucoup de peine à découvrir comment mon intelligence peut arriver à découvrir l'existence de Dieu. Donc ne négligeons pas ce côté affectif, hein. Ce côté affectif est d'autant plus important que je viens de vous dire que la théologie philosophique commence par une interrogation. Alors il faudrait, et si, ici, regarder quel est le statut de l'interrogation. L'interrogation fait appel à un appétit de l'intelligence. Donc fait appel à une affectivité. Je ne peux interroger que si je suis intéressé. Que je suis engagé. Celui qui est le simple spectateur n'interroge pas. C'est plus distingué. Tandis que celui qui est engagé interroge. Il y a toujours dans le statut de l'interrogation un côté affectif. C'est l'appétit de l'intelligence. C'est l'appétit du sujet qui veut atteindre, qui veut aller le plus loin possible. L'interrogation, n'est-ce pas, c'est l'intelligence qui veut monter. Qui veut monter le plus loin possible, qui veut atteindre la verticale. Quand je suis dans la détente la plus absolue, je suis horizontal. N'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, il n'y a aucun désir de monter. Et quand il n'y a aucun désir de monter au point de vue affectif, mon intelligence reçoit ce qu'elle reçoit, et puis c'est tout, elle ne veut pas chercher. L'interrogation, hein, c'est très important, c'est l'hypothèse, l'hypothèse du savant. Un savant, quand il recherche, il pose des hypothèses. Et c'est grâce à son hypothèse qu'il découvre. S'il ne posait pas d'hypothèse, il ne découvrirait pas. Et donc l'interrogation, c'est quelque chose de très important. Ce que donne, vous voyez, Nietzsche à sa manière, quand il montre ce fou qui a une lampe. C'est la lampe, l'interrogation. On veut découvrir sur la place publique s'il y a des traces de Dieu. On veut découvrir si dans l'univers il y a des traces de Dieu. C'est vrai, ça éclaire mon intelligence. Ça lui donne un appétit, une soif d'aller plus loin. Et c'est pour ça que l'expérience religieuse qui est d'ordre affective me met dans cette tension affective de l'interrogation. On n'a pas assez insisté là-dessus, vous voyez, quand on parle des voies d'accès de Dieu. On n'a pas assez insisté sur ce climat affectif nécessaire pour que l'intelligence découvre l'existence de Dieu. Et ceci, c'est très important, parce que, étant donné que c'est la démarche suprême de l'intelligence, vous êtes intelligent quand vous découvrez l'existence de Dieu. Pas avant. C'est grave, mais c'est comme ça. Vous êtes intelligent au sens fort, hein. Votre intelligence est parfaitement intelligente quand elle découvre l'existence de Dieu. Si votre intelligence s'arrête avant, ça prouve qu'elle est faiblarde. Ça prouve qu'elle n'a pas la vigueur qu'elle devrait avoir. Notre intelligence est faite pour Dieu. Alors si notre intelligence est faite pour Dieu, elle est faite pour découvrir l'existence de Dieu. Elle est faite pour essayer de la découvrir. Alors, il y a mille façons de la découvrir, c'est bien évident, mais elle est faite pour cela. Alors, une intelligence, vous voyez, qui dès le point de départ, dit non, c'est impossible, ben, elle ne découvrira rien du tout. Tout savant sait très bien qu'il faut avoir une hypothèse de recherche, et une hypothèse de recherche qu'on alimente. Hein. On alimente l'hypothèse de recherche, on la précise pour que tout, on aille plus vite, et qu'on arrive vraiment à découvrir la chose. Eh bien, ici, l'hypothèse de recherche, c'est l'interrogation. Parce que l'interrogation, c'est vraiment l'hypothèse de recherche dans le sens le plus fort. J'interroge. Et l'interrogation implique donc un côté affectif. Alors ne disons pas, à cause de ça, à cause de ce côté affectif, ah alors, vous voyez, votre découverte de l'existence de Dieu, c'est purement subjectif. Non. C'est d'abord une grave erreur d'opposer objectif et subjectif de cette manière-là. Toute notre connaissance est objective et subjective. Vous ne pouvez jamais avoir une objectivité à l'état pur, c'est complètement idiot. Parce que c'est toujours vous qui connaissez. Donc c'est l'homme qui connaît, donc le sujet qui vous représente. Et quand on sait qu'on doit faire une recherche profonde, on essaie de se mettre dans un état particulier, subjectivement, pour mieux saisir. Vous n'allez jamais critiquer quelqu'un, qui pour voir quelque chose de beau, n'hésite pas de risquer un peu pour se mettre dans une situation particulière pour avoir un magnifique panorama. Vous allez dire, mais espèce de subjectif que tu es. Tu as choisi cette situation pour avoir un magnifique panorama. Donc ton panorama n'est pas objectif. Est-ce que vous lui direz, mais quoi ? Viens voir, tu verras. Vous voyez la subjectivité, la disposition. La subjectivité, c'est la disposition. Je me dispose, je me mets dans cette situation pour avoir ce magnifique panorama. Si vous ne mettez pas dans cette disposition-là, vous ne verrez rien du tout. Avancez encore d'un mètre et vous verrez. Oui, avancez encore d'un mètre. La condition sine qua non pour pouvoir voir, c'est le côté subjectif. Eh bien, je vous dis ici que s'il n'y a pas l'interrogation, et une interrogation profonde, on ne découvrira jamais les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. C'est subjectif, mais c'est nécessaire pour l'objectivité apparaisse. Mais l'objectif apparaît toujours sur un fond subjectif. Ça ne peut pas être autrement. Et le fond subjectif est d'autant plus important que l'objectif est difficile à découvrir. Oui, dans la connaissance affective, on sait ça très bien. Dans la connaissance affective, on sait très bien qu'il faut aimer quelqu'un pour le découvrir. Autrement, vous verrez que c'est des faux. Visible. Tandis que quand vous l'aimez, vous le voyez de l'intérieur. Alors à ce moment-là, vous avez d'autres connaissances. Et les autres peuvent dire tout ce qu'ils veulent, dire « Ah, je sais, je connais, j'aime. » Et parce que j'aime, je garde mon objectivité. Je sais très bien garder mon objectivité, même si j'aime. Je dois être conscient de cela. Je dois être conscient des dispositions subjectives qui me permettent de saisir ce panorama. Le plus grand des panoramas métaphysiques, vous comprenez, c'est d'arriver à découvrir l'existence d'un être premier. C'est quand même un panorama magnifique, ça, de découvrir il existe une source première d'où tout le reste jaillit. C'est pas la vision béatifique, hein. Non, mais c'est quand même un panorama étonnant de voir cela. Vous voyez, c'est l'ombre du soir, vous voyez. Alors, c'est quelque chose de magnifique, extraordinaire. Alors, il faut saisir à la bonne heure, au bon moment, disposition subjective, très nécessaire, expérience religieuse, très nécessaire, pour me permettre de tendre mon intelligence suffisamment dans l'interrogation. Mon intelligence est suffisamment tendue dans l'interrogation. Et c'est très, très important de comprendre ça. Vous voyez, c'est le côté objectif et subjectif de la connaissance métaphysique. Mais de toute connaissance, il n'y a qu'en logique. C'est pour ça que les logiciens aiment bien la logique, parce qu'ils disent « Ah, c'est purement objectif. » Donc même si vous êtes un imbécile, vous comprenez, c'est purement objectif. C'est extraordinaire, ça. C'est l'objectivité à l'état pur. Tandis que de l'autre côté, ah non, mais non, c'est le sujet qui connaît, c'est bien évident, c'est mon bien que je recherche, c'est la réalité profonde que je recherche, c'est ça qui m'intéresse, de saisir d'aller le plus loin possible. Ce que disait, voyez, Platon pour l'interrogation. L'interrogation, c'est comme le chien de chasse. Il sent qu'il y a du gibier dans le fourré, alors il est en arrêt. Et l'interrogation, c'est l'intelligence qui est en arrêt. Elle sait qu'il y a du gibier. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a une réalité qu'elle doit saisir. Et ici, c'est le mystère de Dieu que nous devons saisir. Derrière le fourré, derrière toutes les œuvres de Dieu, on doit découvrir quelque chose de plus profond. Alors, c'est important. J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est très important de comprendre le statut tout à fait particulier de la théologie philosophique. Ça, j'espère que vous comprenez. C'est l'interrogation qui est première. J'entre en théologie. J'entre en théologie philosophique par l'interrogation. Je n'ai pas encore répondu. Hein. Existe-t-il une réalité première, ultime, au-delà de l'homme et du créateur, au-delà de l'homme et de l'univers? Et cette réalité est-elle bien celle que les traditions religieuses appellent Dieu créateur? Oui, il y a les deux aspects qu'il faut tout le temps bien comprendre. Alors, comme ce problème est particulièrement difficile, hein, c'est le problème le plus difficile qui soit, et en même temps le plus simple. C'est très vrai, c'est le problème le plus simple. Hein. Il faut retrouver la source. On a besoin de retrouver sa source. Tant qu'on n'a pas redécouvert sa source, on est un errant. Tant que l'intelligence humaine n'a pas découvert par elle-même l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu, qui est le Créateur, l'intelligence humaine est errante. Même la métaphysique ne lui donne pas cette stabilité dernière. Il faut dépasser la métaphysique, il faut dépasser la philosophie première. Autrement, elle est errante, elle ne sait pas où est sa source. Elle ne sait pas d'où elle vient, on est comme orphelin. Ça explique des quantités de choses, vous savez ça. Que l'intelligence moderne est orpheline. La modernité fait que l'intelligence est orpheline, puisque la modernité met la négation avant et je ne peux plus découvrir l'existence de Dieu. À partir de Kant, on ne peut plus découvrir l'existence de Dieu. Si on est dans la modernité, si on considère que la chose la plus importante, c'est d'être de son temps. Alors, si vous considérez que la chose la plus importante, c'est d'être de votre temps, à partir de Kant, on ne peut plus parler de véritable voie d'accès vis-à-vis de Dieu, sauf du côté pratique. Alors, nous essaierons de voir, sauf du côté pratique. Mais si je vais au-delà de Kant pour chercher la vérité, je dis que la position de Kant, c'est peut-être un grand obstacle pour certains. Mais si je comprends bien la position de Kant, elle ne résout pas le problème. Puisque l'objectif de Kant n'est pas le mien. Ce que nous verrons. Et donc, ça ne résout pas le problème. Comme le problème est particulièrement difficile, je crois que la première chose que nous devons faire, je ne le ferai pas trop lentement, mais ce serait très intéressant à faire, une grande topique historique pour essayer de comprendre les diverses positions des philosophes par rapport à ce problème de Dieu. Ça, c'est un problème très important. Vous voyez, c'est le ski de printemps. C'est les sommets. Hein. Les sommets. Quels sont les sommets des philosophes? Alors, vous voyez les sommets, vous en voyez un qui atteint directement Dieu, un qui dit non, Dieu n'existe pas, un autre qui essaie toujours, et ainsi de suite. Alors vous essayez de comprendre les sommets des philosophes. Vous voyez, c'est très difficile de voir le point de départ de la philosophie, de chaque philosophe. Le Père Maréchal l'a fait. Quand j'ai lu la philosophie du Père Maréchal, j'ai eu envie de faire l'inverse, vous voyez. C'est donc très important de lire les philosophes, parce que de temps en temps, on a envie de faire l'inverse. Donc il met au point de départ de la philosophie. Je dis, mais non, au sommet des philosophies. Quels sont les sommets des philosophies? Je peux savoir explicitement quel est le sommet de telle ou telle philosophie. Quel est le sommet de la philosophie de Kant? Quel est le sommet de la philosophie de Parménide? Quel est le sommet de la philosophie d'Aristote? Quel est le sommet de la philosophie de Leibniz? Les philosophes expriment explicitement le terme de leur enquête ou de leur recherche. Tandis que les philosophes ne disent pas le point de départ. Très rarement ils le disent. Très rarement. Certains le disent. Aristote le dit. Platon à sa façon le dit. La réminiscence. Hein. Mais au fond, ordinairement, on ne le dit pas. Ça reste quelque chose de caché. Tandis que le sommet, on le dit. Alors, vous voyez, ce qui serait très intéressant à faire, hein, c'est d'essayer de comprendre les sommets de toutes les pensées philosophiques. Voir comment les philosophes ont atteint les sommets. Alors, je vais vous en simplement commencer avec vous, parce que je crois que c'est intéressant, puis vous continuerez. C'est une manière très élégante de faire l'histoire de la philosophie. Oui, on se place très haut, il faut
peut se passer très haut. On peut le faire, on peut le faire. Et puis, on essaie de voir les sommets. Il y a des philosophes qui s'éteignent à 6 heures du soir. Il y a des philosophes qui continuent et s'éteignent à 10 heures du soir. D'autres philosophes qui s'éteignent à minuit. N'est-ce pas ? Puis, il y a d'autres qui dégringolent. Parce que c'est la dégringolade complète. Alors, c'est intéressant de voir les sommets. Quels sont leurs points lumineux ? Vous voyez ? Les pointes ultimes de toute la philosophie occidentale. Il faudrait faire la même chose pour l'Orient, pour l'Inde, sommet de la philosophie. Alors, si vous placez de cette manière-là, première recherche, philosophie grecque. Oui, ça complétera le cours de philosophie grecque. La philosophie grecque, on regarde un petit peu le point de départ, on regardera les sommets. C'est les deux regards parallèles.